Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 9 juillet 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a présenté ses condoléances après le décès d'Ahmad Jibril, figure de la résistance palestinienne. L'Iran poursuit des plans pacifiques en fabriquant du métal et d'uranium enrichi, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pas question de viser les missions diplomatiques. La résistance se poursuivra, a souligné le Hezbollah irakien. Et la résistance yéménite a exécuté des opérations simultanées au sud de la province d'Al-Baïza, au sud-ouest du Yémen, contre les agresseurs saoudiens. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a dans un message exprimé ses condoléances suite à la disparition de la figure palestinienne Ahmad de Jibril. Dans un message publié jeudi, l'honorable Ayatollah Khomeini a décrit Jibril comme un combattant infatigable qui a passé toute sa vie à de se battre pour sa patrie usurpée et sa nation opprimée. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la décision de Téhéran de produire des plaques de combustible en vrai silicium en utilisant de l'uranium enrichi à 20% était à des fins pacifiques dans le réacteur de recherche de Téhéran. D'autant que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a été informée de cette décision. Saïd Khatibzadeh a fait ses remarques en réagissant à une déclaration des ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne qui ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de l'Iran de produire la première plaque combustible en silicium utilisant de l'uranium enrichi à 20%. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique s'était vu refuser même les autorités minimum pour vérifier les activités nucléaires en Arabie Saoudite, avertissant qu'une telle situation permet au régime saoudien de poursuivre un programme atomique secret. Saïd Khatibzadeh a fait de ses remarques dans un article publié sur son compte Twitter après que l'envoyé saoudien auprès de l'AIEA a exprimé ses inquiétudes concernant les récentes mesures nucléaires de l'Iran. pour l'Arabie Saoudite, l'AIEA ne dispose même pas des autorités de vérification minimale nécessaires, a déclaré Ali Bouabadi. Un défaut de mise en œuvre des garanties en abrogeant les SQP pourrait leur permettre de cacher certaines activités nucléaires sans qu'elles soient soumises aux inspections de l'AIEA, a-t-il ajouté, faisant référence au protocole de petite quantité d'un accord de garantie généralisée. L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a fermement condamné la politique de deux poids, deux mesures dans la lutte contre le terrorisme et a souligné la nécessité de confronter et de poursuivre les auteurs d'actes terroristes. Majid Tartelavanchi, dans un discours prononcé lors de la réunion approuvant la résolution de l'Assemblée générale de l'organisation intitulée Stratégie mondiale de la lutte contre le terrorisme, la 7e session, avait évoqué la mémoire de Qasem Soleimani, le héros iranien de la lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie, tombant martyr sous l'ordre de Donald Trump en janvier 2020 dans une attaque terroriste américaine. L'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des Nations Unies a réitéré l'engagement de l'Iran à faire face au phénomène inquiétant du terrorisme et à nier toutes ses formes. Lors de son intervention, Tartelavanchi a condamné les doubles standards et l'approche politique dans la lutte contre le terrorisme et les actions unilatérales de certains pays en insérant le nom des pays et des organisations étatiques d'autres pays dans leur soi-disant liste terroriste. Le président du Conseil des ministres des Syriens, Hussein Arnous, a rencontré à Damas Abbas Goldou, vice-président de la commission parlementaire d'amitié Iran et Syrie au Parlement iranien, auquel il a insisté l'importance de consolider les relations parlementaires et d'augmenter les contacts et les visites mutuelles au profit des deux pays et des deux peuples amis. Arnous a indiqué que le gouvernement syrien œuvre pour relancer la coopération économique et les échanges commerciaux entre les deux pays et pour ouvrir de nouvelles perspectives d'une manière compatible avec le niveau des relations stratégiques entre la Syrie et l'Iran. De son côté, Goldou a fait savoir que l'objectif de la visite de la délégation parlementaire iranienne en Syrie était de consolider la coopération et de dissiper les obstacles entravant la coopération bilatérale, assurant que le Parlement iranien s'intéresse au renforcement des relations avec les pays amis et les alliés stratégiques tels que la Syrie et que Téhéran continuera à apporter tout son soutien au peuple syrien. Le responsable de sécurité des brigades du Hezbollah irakien, Abu Ali al-Askari, a démenti tout lien des brigades avec le ciblage des missions diplomatiques, confirmant la poursuite de la résistance jusqu'à ce que le dernier soldat occupant quitte le pays. Dans son communiqué, Abu Ali al-Askari a souligné que les brigades du Hezbollah irakien rejettent et refusent toute attaque contre des missions diplomatiques dans le pays, soulignant qu'elles sont toujours engagées sur cette décision de ne pas bombarder le camp de l'ambassade américaine du Mali et de ne cibler que les forces de l'armée d'occupation et ses bases militaires. La résistance yéménite, composée de l'armée et des comités populaires, a exécuté des opérations simultanées au sud du gouvernorat Al-Baïza, au sud-ouest du Yémen, au cours desquelles elle a conquis quelques positions. Selon la chaîne de télévision d'information Al-Mayadin, les deux opérations ont eu lieu de coordination entre des unités de l'armée et les comités populaires d'un avec des tribus locales. Elles ont été réalisées conjointement dans les deux districts d'Al-Samawat et d'Al-Zahir, à l'est et au sud d'Al-Baïza, et ont fait 80 tués et blessés, dont le chef d'Al-Qaïda dans les rangs des agresseurs. Elles ont permis aux forces de Sanaa de déloger celles du président auprès des missionnaires contestés à Abed Rabou Mansour Hadi, soutenu par la coalition d'agression saoudienne. L'ambassadrice de France est fustigée par des journalistes et des tweeters libanais. Le rédacteur en chef du quotidien libanais à l'Akhbar, Ibrahim Al-Amin, a recadré un griot, l'ambassadrice de la France au Liban, dans son éditorial publié ce jeudi. Il n'est pas le seul. Ses agissements et ses déclarations au pays du Cèdre lui ont valu bien des critiques sur les pages des journaux et les réseaux sociaux. La France se comporte comme si elle est le premier porte-parole du dossier interlibanais. Elle se comporte comme elle détient toutes les cartes qui lui permettent de manipuler tout le monde au Liban. Elle considère qu'il lui suffirait d'avoir des contacts politiques avec le Hezbollah pour que celui-ci accepte ses perceptions, a fustigé Ibrahim Al-Amin, le rédacteur en chef du journal Al-Akhbar. Et d'ajouter, il y a une certaine arrogance répulsive de la part des Français et il le souligne comme quoi il les accorde à la résistance au Liban la bénédiction de dialoguer avec elle alors que la communauté internationale refuse de le faire. Selon Al-Amin, le problème de la France est qu'elle n'a rien appris du passé colonial ni des tentatives de recolonisation directe depuis 40 ans. Eh bien, chers amis, c'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran réagit à la déclaration du trio européen, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la décision de Téhéran de produire des plaques de combustible en silicium en utilisant de l'uranium enrichi à 20% était à des fins pacifiques dans le réacteur de recherche de Téhéran, notant que l'Agence internationale de l'énergie atomique a été informée de cette décision. Saïd Khatibzadeh a fait ses remarques en réaction à une déclaration des ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne qui ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de l'Iran de produire la première plaque combustible en silicium utilisant de l'uranium enrichi à 20%. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réfuté la déclaration en insistant « Conformément aux procédures en vigueur, nous avons déjà informé l'Agence internationale de l'énergie atomique de cette question et de ce processus de production. Contrairement aux affirmations de ces pays, ce produit bénéficie d'applications pacifiques, pharmaceutiques et humanitaires et sa production n'est en aucun cas en contradiction avec les engagements de non-prolifération et de garantie de l'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le processus de production fait partie des mesures correctives nucléaires que l'Iran a commencé à prendre en 2018, un an après que les États-Unis ont quitté l'accord nucléaire. Washington a ensuite réimposé ces sanctions illégales contre l'Iran. Le trio européen s'est plié de sanctions américaines en arrêtant leur commerce avec Téhéran. Khatibzadeh a rappelé que les États européens accusaient l'Iran de violer de ses obligations dans le cadre du plan global d'action conjoint alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais dépassé les monts dans la mise en œuvre de leurs propres obligations. Et les pays se sont alignés sur la pression oppressive des États-Unis en appliquant les sanctions extraterritoriales et illégales américaines, a-t-il déclaré. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également abordé la critique incessante et similaire du département d'État américain à l'encontre de la République islamique d'Iran, la qualifiant d'inacceptable. Il Il a souligné que le statu quo entourant le plan global d'action conjoint était le résultat de propres mesures illégales et unilatérales des États-Unis, affirmant que l'administration de Joe Biden avait maintenu la politique de pression maximale défaite de son prédécesseur Donald Trump contre le peuple iranien. Personne ne devrait s'attendre à ce que l'Iran respecte unilatéralement ses engagements dans le cadre du plan global d'action conjoint alors qu'il subit une pression énorme des sanctions, a souligné Saïd Khatibzadeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a toutefois réitéré la position de Téhéran selon laquelle il arrêterait ses mesures correctives et rétablirait de sa coopération avec l'AIEA comme avant dès la levée des sanctions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'organisation des Moudjahidines Khalq, OMK, connue en Iran sous le nom de Monaferine, hypocrite, est un groupe terroriste, un groupuscule terroriste qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iranien. En fait, des attentats terroristes perpétrés contre à la fois des civils et des responsables politiques du pays. Ils ont tué le chef du pouvoir judiciaire du pays, le docteur Shahid Beheshti, et 72 autres hauts fonctionnaires du pays au cours, d'un attentat à la bombe. C'était en 1981, plus précisément le 30 août 1981, qu'ils ont tué le président de la République de l'époque, Mohammad Ali Rajaoui, et son premier ministre, Mohammad Javad Bahonar. Ils ont perpétré également, comme je viens de vous le dire, d'autres attentats terroristes contre plusieurs milliers de civils et militaires et politiques du pays. Ce groupuscule terroriste est présent dans plusieurs pays européens, très particulièrement en France, en Grande-Bretagne, et très particulièrement encore en Albanie, où ils ont en fait une base. Et permettez-moi de faire cette précision également que lors de la guerre imposée par l'ancien régime irakien contre l'Iran, une guerre qui a duré 8 ans, de 1980 jusqu'à 1988, ce groupe terroriste s'est installé en Irak, c'est-à-dire en Irak pour aider l'agresseur, pour aider en fait le régime qui avait lancé une agression contre l'Iran, en l'occurrence le régime de Saddam Hussein. En fait, ils avaient créé des bases militaires en territoire irakien, mais après, si vous voulez, de l'invasion de l'Irak, et après, si vous voulez, de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement à Bagdad, qui représentait, si vous voulez, le peuple irakien, il y a eu cette exigence de demander, si vous voulez, à ce groupe terroriste de quitter le territoire des Irakiens. Maintenant, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ils ont en fait leur base en Albanie, qui est ce pays européen, et ils continuent toujours de bénéficier du soutien des pays européens et également et surtout des États-Unis. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse un philosophe français spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortillier. M. Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, monsieur Nerosti. Bonjour à tous vos auditeurs. Et aussi, bien sûr, à votre invité. Je vois être monsieur Luc Michel.
Vous l'avez bien dit, monsieur Dortiguet. L'autre invité de la mission d'aujourd'hui, c'est monsieur Luc Michel, géopoliticien belge et spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec nous pour cette émission depuis Bruxelles. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe, c'est un plaisir. Je salue particulièrement cordialement le professeur Dortiguet, avec qui j'ai plaisir de me retrouver sur vos antennes aujourd'hui.
Merci. Monsieur Michel, je viens de lancer le sujet. J'aimerais que vous nous parliez un peu, si vous voulez, de ce groupuscule terroriste et de ses activités et également du soutien, de l'assistance qu'il reçoit, si vous voulez, de certains pays européens et très particulièrement des États-Unis. J'ai oublié une chose également, Luc Michel, en fait, du soutien qu'il reçoit également de la part d'un autre pays de la région, l'Arabie Saoudite.
Écoutez, comme le thermomètre révèle la fièvre, l'histoire de ceux qu'on appelle les moudjahidines du peuple, parce qu'on ne connaît pas le nom de l'OMK en Europe, eh bien, ça révèle l'iranophobie. Ça révèle l'iranophobie comme le procès d'Anvers contre de Bourguiba, enlevé en Allemagne et jugé par la Belgique, comme une série d'autres événements médiatiques. Les médias européens, en particulier les médias français et allemands, sont totalement imprégnés de cette iranophobie. Cette iranophobie contre l'Iran, c'est le pendant de ce qu'est la Russie, de ce qu'est la russophobie contre la Russie de Poutine. Continuellement, on diabolise et on méprise l'Iran. Le soutien que reçoit l'OMK en Europe, et en particulier en France, en Belgique et en Allemagne, ils symbolisent cela. En fait, ils sont l'espoir de certains milieux atlantistes en Europe, le centre de l'iranophobie dans les États-Unis. Ils sont l'espoir d'organiser dans votre pays, l'Europe, une révolution de couleur, un changement de régime communiste. Ils ont tenté le coup à deux reprises lors des dernières législatives, ça n'a pas marché évidemment, et ouvertement, toutes les sanctions économiques contre l'Iran, ils ont un but caché, c'est tout d'abord, c'est de soulever la population contre la République. Voilà ce qui se passe. Les Français sont en pointe dans cette iranophobie, ils ont permis aux moudjahidines du peuple d'organiser un congrès à Villepinte. C'est à cette occasion qu'a eu la provocation qui a conduit au procès d'Anvers. Il faut savoir que la France, depuis les années 1980 au Liban, c'est l'ennemi, peut-on dire, héréditaire de l'Iran. En 1986, le service Action du SDEC, aujourd'hui c'est la DGSE, mais c'est le même service, avait organisé un attentat terroriste pour tenter de détruire par explosif notre ambassade à Beyrouth, sous ordre de François Mitterrand. Ça a échoué. L'histoire, elle est connue, elle est révélée, parce qu'il y a eu un livre qui s'appelle « Les tueurs de la République ». Il y a tout un chapitre qui est consacré là-dessus. Il y a eu d'autres opérations terroristes depuis, évidemment. Ça va jusque dans les médias. Par exemple, il y a actuellement une série à succès qui est fait pour conditionner l'opinion publique. Elle s'appelle « Le bureau des légendes ». Elle est coproduite par Canal Plus et directement la DGSE qui a donné des informations permettent qu'on reconstitue ses locaux en studio, etc. La DGSE s'est présentée comme des chevaliers blancs. Ils s'attaquent au FSB russe. Ils s'attaquent évidemment à Daesh. Ils ne disent pas que Daesh existe avec la complicité précisément des Occidentaux. Mais surtout, il y a toute une série qui est consacrée à l'Iran. Vous êtes des tortionnaires, des tortureurs, le régime est quasiment dictatorial, et vous êtes en train de préparer, bien entendu, l'accession à l'Iran de la bombe atomique. C'est directement de la propagande purement atlantiste, mais vous devez savoir que la série Le Bureau des légendes, elle est tellement adaptée d'une série israélienne. Aux États-Unis, il y a la même phénomène, il y a une série qui s'appelle Homeland, et qui est directement tiré d'une série du même nom en Israël. Voilà donc ce qui se passe. Ces terroristes, en fait, ils sont un prétexte, un moyen, une utilisation. On doit savoir encore quelque chose. Il y a 20 ans qu'on organise des révolutions de couleur. Les Américains, ils disent des régimes. Au départ, on envoyait soi-disant des soulèvements de la société civile. Ils étaient jusqu'à un stade avancé pacifique. Aujourd'hui, c'est terminé. Le terrorisme est directement un élément de ces révolutions. On vient de le voir au Belarus. Le président Loukachenko, il subit avec des marionnettes de l'Union européenne et des Américains une révolution couleur. Eh bien, depuis quelques jours, il y a un mouvement terroriste. On a tenté d'assassiner des journalistes pour Loukachenko. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Et voilà le rôle, donc, ces gens qui se présentent d'ailleurs en Europe sous le nom de Moudjahidine du peuple. Ce qui les rend sympathiques, les Moudjahidines qu'on appelle les soviétiques dans le pays. De l'atlantisme, évidemment, c'est très populaire, et du peuple s'attend à leur donner une légitimité et à dénier toute légitimité à l'Iran. C'est un scandale, malheureusement, qui n'est pas prêt à traiter. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a à Bruxelles. À Bruxelles, il est quasiment impossible d'organiser une manifestation. C'est le siège de l'OTAN et de l'Union européenne. Moi, j'ai fait 20 ans de la politique. Je suis encore actif de la politique électorale. Je suis encore actif dans la politique internationale. Je n'ai jamais eu l'autorisation d'organiser une manifestation. Mais quasiment toutes les semaines, ces Moudjahidines du peuple défilent devant le Parlement européen, ils défilent devant la Commission européenne, ils défilent devant les principaux bâtiments au centre de Bruxelles, ils distribuent des tracts, ils interpellent les gens avec eux. Tout cela, bien entendu, est autorisé, non pas directement par la ville de Bruxelles, mais la ville de Bruxelles, elle a reçu des ordres du ministère belge des Affaires étrangères, qui est l'étroit associé du Quai d'Orsay. Et bien entendu, de l'OTAN, la Belgique, c'est aussi le siège de l'OTAN.
Monsieur Dorsiguier, vous venez d'entendre Luc Michel qui disait que voilà, ce de groupuscule terroriste mène librement de ses activités à Bruxelles, le siège. Monsieur Luc Michel a précisé ce point, le siège de l'OTAN et de l'Union européenne, alors que d'autres manifestations sont presque, si vous voulez, impossibles. Dans la capitale de l'Union européenne et de l'OTAN, idem pour certains autres pays européens. Ce groupe mène librement ses activités en France. Et je viens de le dire tout à l'heure, voilà, l'Albanie s'est transformée en quelque sorte en principale base de ce groupe terroriste. Et idem également pour l'Allemagne, même son de cloche à Londres, en Grande-Bretagne, alors qu'en fait, l'Iran, le peuple iranien, est la principale victime de ce groupe terroriste. Comment peut-on expliquer, M. Dorsiguier, le fait que ce groupuscule mène en fait en toute tranquillité et en toute liberté et ses activités, si vous voulez, dans de ces pays, sans oublier bien sûr les États-Unis?
Eh bien, la réponse à cette question que vous posiez avec M. Luc Michel, que je remercie en particulier de la comparaison qu'il fait entre l'activité des Moudjahidines du peuple et l'opposition qui est faite au président Loukachenko en Biélorussie. C'est tout à fait dans le même style. Mais je dirais que cette organisation terroriste est une menace, savoir les monafirines, les hypocrites, sont une menace permanente, et sont une menace permanente, non pas seulement, bien sûr, contre la République islamique d'Iran, après la révolution de l'imam Khomeini, mais ils sont une menace apparue avant la révolution. C'est-à-dire, dès 1965, cette organisation projetait des attentats en Iran, et donc était mise en réserve, voyez-vous, pour déstabiliser le pays. C'est-à-dire, c'est une organisation qui est en réalité contre la nation iranienne et bien sûr contre la République islamique d'Iran qui la représente. Ceci est très important, car il s'agit là non pas d'une déviation, mais il s'agit véritablement d'un acte de naissance. Toujours cette organisation, donc présidée par la veuve Mariam Jani, a toujours bénéficié de soutien. Voyez-vous, il est quand même étonnant de voir qu'une organisation qui a procédé, je crois, en 1965, à l'assassinat de quelques Américains en Iran, qui appartenait à une compagnie, soit par Mme Clinton en 2012, ne soit plus considérée comme une organisation terroriste. Il faut dire que la réponse, voyez-vous, aller dans ce que j'ai constaté en France. Par exemple, les Moudjahidines du peuple, c'est ce qu'on appelle les Moudjahidines, donc, sont reçus, non seulement ils pourraient être reçus à l'Assemblée nationale, bien sûr dans des ministères, mais ils sont reçus souvent, je dirais régulièrement, au palais du Luxembourg, c'est-à-dire au siège du Sénat. Et chez nous, le siège du Sénat, vous savez, qui est élu, qui est une élection indirecte, c'est pas une élection directe, populaire, est en réalité le siège d'une grande maçonnerie. C'est-à-dire que ça montre que cette organisation n'a pas du tout une origine, une structure nationale iranienne, quelle qu'elle soit, y compris d'opposition. Non, elle a une structure étrangère à l'Iran, opposée à l'Iran, et une structure, je dirais, internationale, qui est un jouet, dès le début, entre, justement, les mains de ceux qui la dirigent. Elle a, je dirais qu'elle a séduit le monde en France, parce qu'elle se présente avec un air de laïcité, de féminisme même, puisque je crois que la plupart des personnalités de son comité directeur sont des femmes, tout ça. Voyez-vous, tout ceci, ce sont des peintures, des figurines, voyez-vous, pour à la fois caricaturer l'Iran réel et en même temps, disons, donner une image idéale, idéaliste de l'Iran. Des gens comme l'abbé Pierre chez nous, par exemple, José Bové, qui sont moins connus aujourd'hui, mais enfin, qui ont marqué leur temps ici en France, dans la gauche ou dans les milieux démocrates, voyez-vous, eh bien, étaient favorables au Moudjahidine, ici, au Moudafirine, car il s'agit d'une immense opération et de tourisme et de propagande. C'est-à-dire que c'est en réalité une organisation qui n'a rien d'iranien. Toutes ces personnes sont des poupettes, comme on dit. Je reprends exactement ce qu'a dit Michel à propos de la Biélorussie, par exemple. On voit ces manifestants, vraiment, ils n'ont rien de commun contre le président Loukachenko, ils n'ont rien de commun avec la réalité du peuple de Biélorussie. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez bien dit qu'il y a eu énormément de morts, d'assassins, d'assassinats en Iran, c'est commis par ces gens-là. Eh bien, ces gens-là sont perpétuellement lavés. Ils ont énormément d'argent. Ils en disposent beaucoup, j'ai appris par vous-même, justement, d'ailleurs, par ce que Prestige a publié. Ils avaient 34 hectares, je crois, à leur disposition en Albanie. Bon, alors quel est véritablement le sens de ce soutien? À mon avis, c'est un sens qui n'est pas du tout à chercher dans une querelle de partis politiques, non, pas du tout. Il ne s'agit même pas d'extrémisme.
Luc Michel, non, je vous en prie, monsieur Dortiguet.
Voyez-vous, bon, c'est-à-dire, disons, est...
Merci beaucoup, Monsieur Dortiguet. Luc Michel, en fait, vous l'avez dit, et Pierre Dortiguet également l'a souligné, ce groupe continue, si vous voulez, de bénéficier de toujours du soutien des gouvernements, au moins de certains gouvernements européens, des États-Unis et également de l'Arabie Saoudite. Luc Michel, sous la précédente administration américaine, c'est-à-dire l'administration Trump, ce soutien accordé à ce groupuscule terroriste était, si vous voulez, ouvert. Il y avait dans l'entourage du président américain de l'époque ceux qui soutenaient ouvertement ce groupuscule terroriste. Vous en souvenez, les propos de John Bolton, de conseiller à la sécurité nationale des États-Unis de l'époque. Et également, vous vous en souvenez des propos du conseiller et de l'avocat de Donald Trump, qui participait même, si vous voulez, à ce congrès, à ces réunions de ce groupuscule terroriste à Paris et ailleurs. Mais quand même, ils ont échoué dans leurs objectifs, Luc Michel, n'est-ce pas?
Écoutez, ils sont utiles et il ne faut pas espérer que Biden va changer. Biden, il marche dans les pas de Trump dans toute la politique internationale, et le grand parrain des révolutions de couleur, c'est un certain George Soros. George Soros, aujourd'hui, il a un pied à la Maison-Blanche, parce que la vice-présidente Kamala Harris est très très proche de son fils Alexander Harris, qui est Alexander Soros, qui est basé à Bruxelles d'ailleurs, et donc le soutien va continuer. Il faut savoir que ce soutien à des groupes terroristes, il est organisé directement par les gouvernements et ministère des Affaires étrangères. J'ai cité l'opposition à Loukachenko, mais je vais citer encore un exemple révélateur en Afrique. Il y a un groupuscule opposé au président équato-guinéen qui s'appelle la COREP. Il est constitué d'équato-guinéens qui ont quitté le pays il y a plus de 30 ans. Eh bien, ils sont parrainés en 2015. Par exemple, ils ont été officiellement invités au congrès du Parti socialiste français par le ministre des Affaires étrangères Fabius et par le Premier ministre Manuel Valls. En 2018, le chef de la COREP, il est basé en Espagne, il est ouvertement lié au secret espagnol. Il a organisé 4 coups d'État terroristes contre la Guinée équatoriale avec l'action de mercenaires étrangers. Ils ont tous échoué. Eh bien, ce chef, il s'appelle Severo Moto, il a été officiellement reçu à Bruxelles par le Parlement européen. Il ne faut donc pas s'étonner que ces méthodes qui sont générales soient appliquées à l'Iran. Aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont 3 bêtes noires, c'est Moscou, Pékin et Téhéran. Contre eux, ils ont organisé 3 coalitions militaires, l'OTAN du Proche-Orient et le Quad, et bien entendu, ils ont toujours l'espoir de ces révolutions de couleur. En particulier en Iran, on insiste fortement dans les médias occidentaux sur le fait que la population subit de plein fouet la crise économique. On ne raconte pas que la crise économique est provoquée par les sanctions, justement, comme dans un autre pays, le Venezuela, où là aussi les Américains et les Européens soutiennent un groupuscule terroriste et un président qui s'est proclamé président du pays, qui est un fantoche américano-atlantiste, Guaido. C'est la même chose partout. Il ne faut donc pas s'étonner que les méthodes qui sont employées depuis 20 ans sur les 4 continents soient employées depuis 2010 contre l'Iran. Arriver à l'instabilisation de l'Iran, c'est l'un des objectifs majeurs de la politique étrangère américaine.
Merci.
Les Européens et les Atlantistes, ce sont simplement les porteurs de valises des Américains. Certains milieux industriels français souhaitaient d'ailleurs collaborer économiquement avec l'Iran. On les a obligés à s'en aller. C'est comme
Merci
ça que
beaucoup.
Ça se passe. Et donc, il ne faut pas attendre grand-chose de tous ces gens. Le soutien, bien entendu, au Moudjahid du peuple, il va continuer. Les manifestations vont continuer. Simplement, tout cela, ce sont des millions, si pas des milliards de dollars qui sont dépensés en vain.
Merci beaucoup. Luc Michel, vous soulevez en fait un point intéressant. Permettez-moi d'avoir l'approbation de M. Dortiguet également sur ce sujet. M. Dortiguet, nous avons au maximum 2 minutes de devant. Et nous, Luc Michel estime que voilà, l'objectif, ça s'inscrit dans le cadre de cette politique de déstabilisation, que ce soit, si vous voulez, à propos de l'Iran, à propos de l'Afrique et ailleurs dans le monde. Et votre autre point de vue sur ce sujet, s'il vous plaît.
Notre ami Jean-Luc Michel, c'est que la crise économique aujourd'hui mondiale amène justement ceux qui ne peuvent pas juguler cette crise, qui l'ont créée et ne peuvent pas la maîtriser, à vouloir, disons, faire une fuite en avant. Cette fuite en avant, c'est le soutien au terrorisme, c'est-à-dire ajouter, si je puis dire, du désordre à leur propre désordre. Voilà exactement, disons, la formule ou la situation dans laquelle se trouve ce qu'on aurait appelé autrefois le capitalisme international. Vous savez, les formules sont anciennes, mais elles sont toujours réelles. Je crois que c'est un signe de faiblesse. Le soutien au terrorisme, en particulier des morphérines, est un signe de faiblesse, justement, de cet ordre nouveau qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que, justement, ceux qui le soutiennent, ceux qui soutiennent ces terroristes, en réalité, disons, montrent qu'eux-mêmes sont incapables, parce qu'il y a un ordre, ils veulent imposer un ordre, mais ils créent du désordre.
Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Pierre Dortiguet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Luc Michel d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, ami, à très bientôt.
L'organisation des Moudjahidine Khadr est l'un des groupes terroristes qui a perpétré le plus grand nombre d'attaques terroristes contre le peuple et le gouvernement iranien. Le peuple iranien est l'un des plus grands groupes de victimes de ce groupe terroriste. Après la victoire de la révolution islamique des années 1980 à 1999, c'est-à-dire en l'espace de 19 ans, une quinzaine d'opérations terroristes ont été menées par les Moudjahidines dans le but d'éliminer les responsables iraniens. Des pays occidentaux, notamment la France, accueillent et soutiennent ces terroristes depuis des années. Comment la France est devenue un havre de paix pour l'une des plus redoutables organisations terroristes? Luc Michel, géopoliticien belge, nous répond.
Il faut savoir que ce groupe qu'on appelle les Moudjahidines du peuple en Europe, il est particulièrement parrainé par le Quai d'Orsay et le State Department. Le but de ce parrainage, c'est d'utiliser ce groupe dans une... Ils espèrent une révolution de couleur dans votre pays. Ils ont déjà tenté à deux reprises, ils appelaient ça la révolution verte, ils ont tenté de le faire. Et donc, ce groupe est présenté comme un parti d'opposition. Il y a une autre opposition, c'est celle des anciens monarchistes, avec le fils déchu de l'ex-Shah d'Iran. Ce sont les deux groupes qui sont soutenus. Les Moudjahidines font de l'activisme, en particulier dans les communautés iraniennes en Europe. Et les monarchistes, ils fournissent les experts et les intellectuels sur les plateaux de télévision. Quasi quotidiennement, France 24, RFI, etc., leur donne la parole, évidemment, vous vous doutez, pour démolir votre pays. On a déjà vu, quand il y a eu le fameux procès à Anvers contre un de vos diplomates arrêté en Allemagne contre tous les usages diplomatiques et la Convention de Genève, on a déjà vu ce que moi j'appelle purement et simplement l'iranophobie. Il y a une russophobie, il y a une sinophobie, il y a une iranophobie. Cette iranophobie, elle imprègne tous les médias. Il y a un scénario médiatique qui présente l'Iran comme un État terroriste et les alliés de l'Iran, en particulier le Hezbollah, le Hamas, Ansarallah ou le Hajj al-Jalabi, comme des mouvements terroristes. Ils ont d'ailleurs obtenu, c'est le travail de lobbyisme justement de ces Moudjahidines du peuple au Parlement européen, que l'Europe fasse mettre le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des médias biaisés, donc je vous l'expliquais, c'est-à-dire que tous les experts, il n'y a jamais une voix pro-iranienne, ce sont des monarchistes ou des Moudjahidines du peuple, mais il y a aussi des scénarios virtuels. Je vais vous en donner un exemple. L'iranophobie, elle imprègne les séries télévisées, elle imprègne les films, etc. Il y a une série télévisée célèbre qui est diffusée par Canal+, qui est diffusée internationalement en France, en Belgique, etc. Ça s'appelle le Bureau des légendes. C'est coproduit avec les services français, la DGSE. La DGSE, elle parraine, on a reconstitué en studio ses locaux pour tourner la série, mais dans les locaux de la DGSE, on trouve des posters comme décoration de cette série télévisée. La série télévisée, elle présente les agents secrets français comme des héros qui combattent le terrorisme, le djihadisme, mais aussi tous les ennemis de la France, c'est-à-dire le FSB russe, les services secrets syriens et vos services secrets. Il y a en particulier une série complète qui se déroule en Iran. On présente l'Iran comme une dictature. On vous présente comme des tortionnaires, vous torturez les opposants, vous les brimez, etc. Et les Français viennent aider justement des politiciens d'opposition à faire entendre leur voix. L'utilisation de groupuscules terroristes, elle est fréquente dans toutes les révolutions de couleur. Au début, les révolutions de couleur, nous étions il y a 20 ans. La première, c'était en Yougoslavie en octobre 2000. Moi, j'étais déjà là-bas. Je soutenais le gouvernement du président Milosevic. À l'époque, on utilisait des groupes de jeunes et des groupes pacifistes. Il s'agissait de soulever pacifiquement la rue et d'obtenir par la répression un désaveu des régimes. Mais petit à petit, le scénario a changé. À partir du moment où on a lancé le printemps arabe en 2011 et le printemps africain en 2014, mais déjà lors de l'attaque contre la Libye en février 2011, on a transformé les révolutions de couleur en coup d'État ou en opération terroriste. Par exemple, en Libye, je devrais parler, il y a un coup d'État à Benghazi au mois de février, avec l'accord de l'ONU, il est transformé en guerre civile et puis en intervention militaire, avec des Tafkiris qui ont été ramenés par les Turcs d'Afghanistan en Libye. Le chef de Al-Qaïda en Libye, il a été nommé en août 2011 gouverneur militaire de Tripoli lorsque la ville a été prise par les généraux français et les généraux américains. L'histoire, elle va continuer. Nous sommes en 2015 au Burundi. Il y a une révolution de couleur qu'on va appeler le Maïdan de Bujumbura parce que c'est au même moment que le Maïdan en Ukraine. En Ukraine, on avait déjà vu l'utilisation de mercenaires, de snipers, et le soi-disant soulèvement pacifique de l'Euromaïdan, il se termine en février 2014 par un coup d'État néofasciste avec des milices d'extrême droite.
L'OTAN accuse une défaite dans sa guerre de Crimée. Les exercices militaires conduits sous l'égide de l'OTAN sur des territoires tierces, en l'occurrence en Ukraine, sont l'occasion de tester des scénarios de conflit aux frontières de la Russie, qui reste bien l'ennemi numéro un, quoi qu'elle puisse faire. Sea Breeze 2021 s'annonçait très dense et il ne démentit pas les attentes. Comme l'a souligné Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, les États-Unis et la Grande-Bretagne l'ont utilisé pour tester le système de défense de la Russie en mer Noire. Et la réponse a été reçue. Ni l'OTAN ni les États-Unis ne peuvent battre la Russie dans la mer Noire. Ce qui n'empêche pas de continuer le combat. Dès le départ, des navires ont tenté de pêcher des informations aux abords de la Crimée. Le 17 juin, deux navires de guerre, l'un britannique, le Defender, et l'un hollandais, le Evertsen, ont vu leur système d'authentification automatique suspendu. Mais la réaction russe fut manifestement trop délicate et ce même Defender, le 23 juin, a sciemment violé la frontière russe. Comme l'a déclaré le président russe, la Russie était au courant de ce qui se passait. Tout d'abord, un avion furtif américain a quitté sa base de Crète et il a été repéré. La Russie a laissé faire pour voir comment se déroulait le scénario. Mais quand le destroyer britannique Defender est entré de 3 km à l'intérieur des eaux territoriales russes en Crimée, les gardes-côtes ont réagi et tiré un coup préventif pendant que le Su-24M a effectué un bombardement préventif suivant le cours suivi par le navire britannique. Le lieu de la violation n'est pas anodin, la Crimée. Le but était donc bien d'affirmer de manière assez grossière que les pays de l'OTAN soutiennent l'Ukraine et ne reconnaissent pas ses eaux territoriales comme russes. Finalement, Defender et Evertsen ont quitté les eaux de la mer Noire le 2 juillet et il est vrai que leur mission est accomplie. Leur présence ne présente plus aucun intérêt. Selon Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, les États-Unis et la Grande-Bretagne cherchaient ainsi à obtenir des informations sur la détermination de la Russie à défendre par la force ses frontières, informations qu'ils ont obtenues. Washington et Londres étaient parfaitement conscients de la profondeur des conséquences et de la gravité de ce genre d'action. Bien sûr, ils comprenaient la nature de notre réaction et pourtant ils ont décidé de tester de cette manière notre détermination à répondre par la force si nécessaire et ont tenté de découvrir notre système de défense côtière, affirme-t-il. Le message semble être passé, si l'on en croit un article publié dans le journal National Interest, l'idée selon laquelle la Russie ne peut être battue en mer Noire ni par l'OTAN ni par les États-Unis commence à faire son chemin. Toutefois, l'OTAN entend démontrer avec ses exercices qu'elle n'abandonne pas la mer Noire à la Russie, ce que le Washington Post publie. Les exercices militaires de l'OTAN et des alliés sont généralement présentés comme étant défensifs, conçus pour entraîner l'interopérabilité des différentes forces. Mais tout exercice militaire de grande envergure réalisé à proximité des frontières d'un adversaire envoie un message géopolitique. Dans ce cas-ci, l'OTAN ne permettra pas que certaines parties de la mer Noire deviennent un étang russe. L'exercice offre également un soutien à l'Ukraine qui est engagée dans un conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays. Nous démontrons au monde entier que la mer Noire est une mer internationale. Elle est ouverte et disponible pour le libre transport du commerce, de la navigation, pour toutes les nations. Et elle n'est pas la propriété d'une seule nation, a déclaré le capitaine Kyle Gant lors d'un briefing mardi. Si ces exercices sont bien une démonstration de force, ils marquent aussi la limite d'action possible des pays de l'OTAN tant que la Russie est prête à réagir. Ils ne peuvent dépasser le stade des démonstrations, mais ils guettent le moindre moment où la Russie baisserait la garde.